Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, l'affaire Vincent Lambert, encore à un tournant. Les traitements sont à nouveau interrompus à l'hôpital de Reims. La cour de cassation ne s'y était pas opposée il y a moins d'une semaine. Nous retrouvons Daniel Messager dans un instant. La lutte contre le cancer porte ses fruits, mais la bataille reste violente. Le taux de mortalité diminue, 150 000 morts encore chaque année. Et l'écart se réduit entre les hommes et les femmes qui ont adopté des comportements à risque ces dernières années. Ce sera la chronique santé avec Véronique Julia. Comment en est-on arrivé là chez Conforama, vers la suppression de 1900 postes et la fermeture de 32 magasins? Qu'est-ce que cela raconte des évolutions de la grande distribution? L'invité de ce journal est l'économiste spécialiste du secteur Olivier Dauvert. Amazon annonce dans le même temps la création de 1800 emplois. L'Union européenne empêtrée dans ses divisions. À Bruxelles, les négociations laborieuses pour les plus hauts postes reprennent. À Strasbourg, le nouveau Parlement sans majorité claire siège pour la première fois. À Paris, la majorité est embarrassée par l'accord de libre-échange entre Europe et Amérique du Sud. Le réseau SNCF dans les Alpes endommagé après le gros coup d'orage d'hier soir. Pas de train entre Chambéry et Grenoble. De grosses perturbations dans les régions d'Annecy, Aix-les-Bains, Albertville et Bourg-Saint-Maurice. Et la météo pour aujourd'hui, c'est encore des orages. Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous. Oui, risque orageux au sud de la Loire. Des orages parfois forts sur 5 départements en vigilance orange. Quant à l'Haute-Loire, Lozère, Ardèche et Gard, avec de la grêle, de fortes rafales de vent. Plus au nord du soleil et des températures estivales, 24 à 31 degrés. Un peu moins près de la Manche, mais plus sur le sud-est, jusqu'à 37 degrés.
A tout à l'heure Elodie pour d'autres détails. Un peu plus de femmes, un peu plus de place pour les femmes dans l'industrie du cinéma. De nouveaux membres à l'Académie des Oscars et beaucoup de femmes. C'est l'effet MeToo. Beaucoup de Françaises aussi, nous dira Corinne Pellissier tout à l'heure. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Le médecin de l'hôpital de Reims, le docteur Sanchez, cesse à nouveau les traitements sur Vincent Lambert. Après le Conseil d'État, après la Cour européenne des droits de l'homme, vendredi dernier, la Cour de cassation ne s'est pas opposée à ce geste. Vincent Lambert, état végétatif depuis plus de 10 ans après un accident de la circulation, famille déchirée. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Est-ce le dernier moment de cette affaire ultra médiatisée? Peut-être pas, en tout cas, un nouveau moment crucial.
En tout cas, c'était attendu depuis la décision de la Cour de cassation de vendredi dernier. Une cassation prononcée sans renvoi, ce qui fermait donc la porte à une autre juridiction. Et ce, malgré les déclarations des avocats des parents de Vincent Lambert qui avaient évoqué un recours international. Hier, justement, la mère, Viviane Lambert, était à Genève, à l'ONU, pour réclamer un secours devant le Conseil des droits de l'homme. C'est d'ailleurs peut-être parce qu'elle n'était pas en France que le docteur Sanchez n'a pas procédé dès hier à l'arrêt des traitements. Il devait auparavant en avertir la famille, ce qu'il a fait par mail en appelant à la responsabilité de chacun pour que cet accompagnement soit le plus paisible, intime et personnel. Le processus d'arrêt de la nutrition et de l'hydratation est le même que celui mis en place le 20 mai dernier. Ce sont des traitements et non des soins donnés artificiellement. Ce sont eux qui maintiennent Vincent Lambert en vie. Ils sont accompagnés d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, comme l'autorise la loi sur la fin de vie. Pour une personne qui n'est pas en état de s'exprimer, il s'agit d'un endormissement profond qui évite toute situation d'inconfort. Il n'y a pas de sensation de faim ou de soif. Et c'est un processus qui peut durer plusieurs jours.
Et les avocats des parents avaient menacé de porter plainte pour meurtre avec préméditation en cas d'arrêt des traitements. On verra s'ils appliquent leurs menaces. Du côté politique, Édouard Philippe, le Premier ministre, la dernière déclaration en date à propos de cette affaire. La situation est sans issue sur le plan des soins. C'est ce que disent les médecins, souligne le Premier ministre. Il faut respecter, dit encore Édouard Philippe, ce que disent les médecins et ce que dit la loi. La division entre les gouvernements dits populistes et les autres, division entre l'Est et l'Ouest, entre la France et l'Allemagne, entre les tenants de l'orthodoxie financière et ceux d'une politique plus accommodante, les divisions entre sociaux-démocrates, conservateurs, centristes, écologistes, l'Union européenne est fracturée de partout. Pas étonnant qu'il soit très difficile pour les 28 de se mettre d'accord sur le nom des futurs dirigeants de l'Europe. 2 sommets n'ont pas suffi. Nouvelle réunion aujourd'hui à Bruxelles. Nous allons en Belgique dans un instant. D'abord, reportage à Strasbourg. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Bruno.
C'est dans ce contexte que le Parlement européen, issu des élections du printemps, se réunit pour la première fois aujourd'hui. Alors parmi les curiosités, il y a 73 députés britanniques, alors que la Grande-Bretagne est censée quitter l'Europe le 31 octobre. Les partisans les plus fermes du Brexit ont tourné le dos pendant que retentissait l'hymne européen ce matin. Drôle d'ambiance décidément à Strasbourg, Louise.
Ben oui, hein, dans les longs couloirs du Parlement européen, on s'impatiente. Tout d'abord, pas question de modifier une nouvelle fois l'ordre du jour. A tonné tout à l'heure le président sortant, Antonio Tajani, s'est dit, les eurodéputés se choisiront un nouveau président demain, dernier délai. Quelles que puissent être les discussions à Bruxelles et aussi longues soient-elles, eh bien non, certains voudraient même carrément passer outre l'avis des chefs d'État, comme l'eurodéputé France Insoumise, Emmanuel Morel.
Si ça tenait qu'à moi, on pourrait même voter aujourd'hui. Depuis plus de 24 heures, on ne parle que du mécano institutionnel, je te passe le sel, tu me donnes le poivre. On a l'impression d'un truc de marchand de tapis. Il faut pas vexer Merkel, mais il faut donner satisfaction à Macron, tout en se distanciant de Salvini, mais sans fâcher Orban.
Demain, on vote, dit aussi le numéro 2 de la délégation macroniste, Pascal Canfin. Mais attention, le Parlement, lui aussi très divisé, a tout intérêt à suivre l'avis des chefs d'État.
Comme nous avons déjà eu cette discussion pour le président de la Commission et qu'on arrivait à la conclusion qu'au fond, il n'y avait pas de majorité au Parlement européen, la même discussion va de nouveau avoir lieu si les chefs d'État ne se mettent pas d'accord. Donc moi, mon souhait, c'est que les chefs d'État se mettent d'accord aujourd'hui, le plus rapidement possible. Et ensuite, nous, on procédera dans le cas d'un paquet négocié à l'élection de ce président.
Voilà, à Bruxelles, un Conseil européen plus divisé que jamais, et à Strasbourg, une assemblée qui n'a jamais été autant fracturée. Ambiance inédite, y compris aux portes du Parlement. Musique et slogan des indépendantistes catalans qui manifestent en soutien à trois des leurs élus fin mai en Espagne, mais dont Madrid bloque la prise de fonction ici à Strasbourg.
Merci Louise Baudet, en direct de Strasbourg, nous allons à présent à Bruxelles. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Correspondante permanente de France Inter. Alors, on parle de la présidence de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil européen, du chef de la diplomatie, entre guillemets, et pourquoi pas présidence de la Banque centrale. Est-ce que les négociations sur les top jobs progressent, Angélique?
Ouh là là, très petit pas, hein, semble-t-il. La multiplication des échanges téléphoniques et des textos depuis hier soir entre les dirigeants et leurs sherpas n'aurait pas permis de faire émerger une solution avant le début de ce sommet et la réunion formelle, hein, donc pris du retard. Le blocage resterait entier sur l'idée de nommer le socialiste Frans Timmermans à la tête de la Commission européenne, poste le plus important et qui, par ricochet, permettra de décider du reste du mercato. Une partie de la droite européenne, hein, des dirigeants ici ne veulent pas que ce poste lui échappe et les pays de l'Est refusent toujours Timmermans. Ça ne nomination serait inacceptable, a même indiqué à son arrivée tout à l'heure le Premier ministre tchèque. Un compromis franco-allemand, cela ne suffit plus ici pour susciter l'adhésion et ça, c'est l'un des enseignements de ces derniers jours. Il semblerait donc qu'un autre scénario se dessine avec la droite qui garderait la commission. Et là, je ne me risquerai pas à donner de nom, même si Michel Barnier reste une option, mais les Allemands y sont opposés. On verra ce qui sortira du chapeau. Le Conseil européen pourrait revenir aux socialistes et le poste de haut représentant à la diplomatie à un libéral, mais tout cela, ça reste des hypothèse, on n'est jamais ici, vous le savez, au bout de nos surprises.
Un bon courage, Angélique Bois, en direct de Bruxelles. Et les négociations continuent, on continuera de les suivre, évidemment. Rendez-vous dans nos journaux 18 et 19 heures. Au tableau européen, il faut ajouter l'accord de vendredi dernier entre Union européenne et Mercosur, les grands pays d'Amérique du Sud. Accord de libre-échange, baisse des droits de douane. Cela fait hurler les écologistes et les agriculteurs. Les normes en Amérique du Sud sont infiniment moins exigeantes qu'en Europe. Alors la France est-elle prête à ratifier cet accord? Réponse de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye ce matin chez nos confrères de BFM.
Moi, je ne peux pas vous dire que nous allons aujourd'hui ratifier le Mercosur. On va le regarder dans le détail et en fonction de ce détail, nous allons décider.
Donc la France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier.
Bon, ni oui, ni non. Donc, en réalité, Karine Bécard, la majorité, gouvernement et plus encore les députés, la majorité est embarrassée.
En fait, le gouvernement temporise. Officiellement, c'est vrai, la France n'est pas encore prête à ratifier cet accord avec les pays du Mercosur, tout simplement parce qu'elle n'en a pas encore lu précisément le contenu. Pour l'instant, rappelons-le, c'est la Commission européenne qui a eu mandat il y a 18 ans de cela pour négocier ce traité. Donc concrètement, le gouvernement français reconnaît qu'un accord politique vient d'être passé, qu'un certain nombre de garanties ont été apportées, mais que ce texte, avant d'être finalisé, a encore besoin d'être observé de près. En revanche, le ton monte vraiment du côté des députés de la majorité, qui sont d'ores et déjà tout près d'une centaine, c'est-à-dire pratiquement un tiers du groupe à discuter parler et à s'agiter sur le sujet, à ne pas comprendre en réalité que dans le contexte écologique actuel, l'exécutif puisse envisager de ratifier ce traité et ses parlementaires remontés, ce ne sont pas que les agriculteurs et les écologistes, non, ils sont beaucoup plus nombreux et ils comptent bien cet après-midi dans l'hémicycle se faire entendre, exiger des explications en profitant des questions au gouvernement.
En bref, désormais lors des mariages, on lira aux futurs époux cet extrait du code civil, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. La proposition de loi qui interdit les violences éducatives ordinaires, fessées et autres gifles doit être définitivement adoptée aujourd'hui au Sénat. Conforama et ce plan de suppression de postes, 1900 suppressions de postes, 32 fermetures de magasins, un comité central d'entreprise devait se tenir ce matin. Finalement, il n'a pas eu lieu. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous êtes au siège social du groupe de distribution, c'est à Logne, en banlieue parisienne, où on est surpris, en tout cas les syndicats, par l'ampleur de ce plan.
Oui, on savait qu'il y aurait une restructuration, mais de cette ampleur-là, Saïda, élu CFE-CGC et cadre d'un site qui va fermer, n'en revient pas.
La direction nous a trahis sur toute la ligne. En plus, on le fait pendant l'été. C'est des vraies méthodes inhumaines et de voyous.
Surtout ce que les syndicats n'ont pas apprécié ce matin pour qu'il y ait le moins de vagues possible selon eux. La réunion n'était pas prévue au siège, mais dans un hôtel, loin des salariés.
Rendez-vous compte, aujourd'hui, c'est de l'avenir des salariés dont on parle. C'est juste inadmissible d'avoir une direction qui se comporte comme ça. C'est juste inadmissible.
Surtout que c'est une direction qui se targue, ils se vendent partout, que le social est sa priorité. Eux, ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est uniquement comment est-ce que les créanciers vont pouvoir récupérer leur mise, vont gagner un peu d'argent sur le dos des salariés. Et ça, nous allons le combattre de toutes nos forces.
Le combattre par tous les moyens d'action au regard du préjudice. Mouloud Amour de Force Ouvrière a déjà son idée.
On va licencier, on va mettre à la porte, excusez-moi du terme, 1900 personnes et on se comporte de cette manière-là. On va demander une grève générale de tous les magasins à partir d'aujourd'hui de manière indéterminée pour tous les établissements de Conforama France.
Ce matin, les salariés de plusieurs magasins ont déjà promis de suivre cet appel.
Merci Maxime Debs. Bonjour Olivier Dauvert.
Bonjour.
Économiste, spécialiste de la distribution en studio avec nous pour essayer d'y voir un peu plus clair. Comment en est-on arrivé là?
C'est la conséquence de deux phénomènes. D'abord, c'est que le propriétaire de Conforama est un groupe qui est en difficulté, c'est le sud-africain Steinhoff, et que quand votre propriétaire va mal et que vous auriez besoin qu'il vous aide et qu'il vous soutienne, évidemment, vous avez quand même moins de chances que ça soit le cas. Première explication. Deuxième explication, c'est que c'est une entreprise, une enseigne qui va mal commercialement. L'année dernière, ses ventes ont baissé, le chiffre d'affaires a baissé, et dans le même temps, ses résultats sont passés dans le rouge. Ça veut dire que désormais, Conforama perd de l'argent. Donc, l'économie, vous savez, est une matière qui est finalement assez simple à comprendre. Quand des magasins ou des entreprises perdent de l'argent, leur pérennité, elle est menacée. C'est finalement assez logique. Et donc, sans vouloir expliquer ou justifier le plan, parce que c'est pas le sujet, c'est une forme d'évidence. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques mois, on voit régulièrement des plans. On a aujourd'hui Conforama, on a connu Carrefour, on a connu Auchan, on en a connu d'autres. Et ça va continuer.
Alors, on va s'interroger sur ce tir groupé. D'abord, Conforama, pourquoi les ventes baissent-elles?
Alors, là, il y a un phénomène de concurrence avec d'autres enseignes qui sont plus dynamiques que Conforama. Je pense à Ikea, évidemment. Conforama n'a probablement pas fait les efforts d'investissement nécessaires pour que les magasins reviennent dans l'air du temps. Il faut faire ses courses dans un Conforama pour comprendre quand même que c'est pas la même chose que d'être chez Ikea, par exemple. Deuxième explication, c'est la concurrence du web, encore une fois. Même si c'est pas sur Internet que vous achetez le plus probablement votre canapé, il n'empêche que chaque fois sur un marché global qui ne progresse plus, vous avez un acteur en plus autour de la table, ça fait des plus petites portions pour chacun. Et donc Conforama, qui était probablement le plus faible des acteurs autour de la table, est la première victime de ces difficultés de la consommation.
La logique est la même que celle qui amène Carrefour, Auchan à traverser des difficultés ou ça n'est pas comparable?
Oui, c'est tout à fait comparable parce qu'en gros, il faut comprendre deux choses assez simples qui arrivent de manière concomitante. D'abord, on continue à ouvrir des mètres carrés, à ouvrir des magasins, c'est-à-dire à produire de l'offre commerciale, alors que dans le même temps, la consommation ne progresse plus autant qu'avant. Je vais vous donner juste deux chiffres. Jusqu'en 2008, c'est-à-dire avant la crise financière, la consommation des Français, et je parle de produits alimentaires, non alimentaires, de produits ou de services, elle progressait entre 2 et 3% par an tous les ans. Ça veut dire en gros qu'il y avait du vent dans les voiles pour toutes les enseignes.
Et qu'on pouvait ouvrir des magasins.
Et qu'on pouvait ouvrir évidemment des magasins parce qu'il y avait des consommateurs et surtout de l'argent à y dépenser. Depuis 2008, en moyenne annuelle, la consommation ne progresse plus que de 0,6 à 0,7% par an. Vous voyez bien que le souffle n'existe plus, alors que dans le même temps, on continue à ouvrir des magasins ou à agrandir certains magasins. Et donc, mécaniquement, ça coince. Surtout qu'encore une fois, on a entre-temps l'émergence du e-commerce qui pèse aujourd'hui quasiment 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle de la France.
À propos de e-commerce, des suppressions de postes chez Conforama, dans le même temps, 1800 créations de postes annoncées par Amazon. Est-ce que l'un est allé chez l'autre ?
C'est un formidable hasard, mais qui dit quand même beaucoup. C'est-à-dire que ce que l'on détruit à un endroit, on le recrée ailleurs. Simplement, c'est l'illustration, encore une fois, que les acteurs historiques d'un métier sont rarement ceux qui prennent la vague de la révolution en cours, parce que ça nécessite tellement de remises en cause que c'est pas forcément facile à faire et que finalement, oui, en apparence, le solde, il est quasiment neutre, oui. Sauf que ça fera beaucoup de malheureux chez Conforama. Et il faut entendre cette détresse, évidemment, mais finalement, vous voyez que ça s'équilibre parce qu'on consomme toujours, sauf qu'on ne consomme plus autant en croissance qu'avant.
Et en termes d'emploi, est-ce qu'il n'y a pas une dégradation ? C'est-à-dire, est-ce que les emplois créés chez Amazon sont de même qualité, entre guillemets, que
de
les
emplois ? De manière très objective, c'est impossible à dire. Est-ce qu'un emploi de manutentionnaire dans un entrepôt vaut un emploi d'employé libre-service qui vend des matelas toute la journée ? J'avoue ne pas pouvoir répondre de manière intelligente.
Dernière question, Olivier Dauvert. On avait l'impression jusque-là que c'est les centres-villes qui se vidaient. Là, avec Conforama, on parle d'un type d'enseigne qui est plutôt en périphérie. Ces enseignes-là, ce positionnement-là aussi est menacé.
Oui, parce que le fond du problème, encore une fois, c'est la distorsion croissante qui va entre d'un côté l'évolution de la consommation qui est quasiment à l'arrêt. C'est pas la crise de la consommation, parce qu'il y a pas de chute, mais malgré tout,
ça
ne progresse
plus.
N'augmente plus, pardon. Alors que dans le même temps, on continue à ouvrir des mètres carrés. Donc ces mètres carrés, ils ont été ouverts en périphérie, en centre-ville, et quand il s'agit de faire respirer ce marché-là, ça ferme un peu partout.
Et ça veut dire que l'ère des grandes chaînes du style Fnac, Darty, du style Habitat, du style Conforama, tout ça, cette ère-là est révolue.
Non, l'ère est révolue pour les faibles dans chacun des marchés, parce que Fnac, Darty, pour le coup, se porte pas si mal que ça.
C'est
mais
remis,
les faibles iront mal partout, parce que les temps sont durs et surtout que ça va durer.
Merci pour ces explications très claires à propos de ce plancher Conforama et l'état de la situation dans la grande distribution. Après les canicules, les orages, le puissant coup de vent de grêle et de pluie d'hier en Auvergne-Rhône-Alpes a de grosses conséquences. Près de 50 000 foyers étaient encore privés d'électricité en début de matinée. Et puis sur les trains surtout et sur le réseau ferré, les conséquences. 3 TGV immobilisés toute la nuit, 2 Paris-Grenoble en particulier. Alors dans le second, il y avait la petite amie de Nathan qui a dormi à la gare de Lyon-Saint-Exupéry. Dans le premier, il y avait Nathan lui-même qui a aussi passé une chouette nuit, vous allez voir, entre Rives et Saint-André-le-Gaz, tout près de Lyon. Les emmerdes, ça vole en escadrille, disait le président Chirac. Ça peut aussi avancer groupé sur des rails SNCF. À un stade d'accumulation, ça devient drôle.
Vers 19h40, on s'est arrêté un peu avant Saint-André-le-Gaz. On nous a dit qu'il y avait une rupture de courant électrique. 30-40 minutes après, on repart, puis on se rarrête à Saint-André-le-Gaz. C'est un passage à niveau qui est cassé. Puis on se dit, ça va être réparé. Mais en fait, non, on nous dit qu'il y a des personnes sur les voies et qu'il y a un deuxième passage à niveau qui est cassé. Donc on repart, mais à vitesse réduite. Et au final, on se réarrête encore à Rives parce qu'on nous dit qu'il y a une coupure d'électrocourant, mais on nous dit qu'on va rester 10 à 15 minutes. Au final, il y a un arbre qui est tombé sur les voies et donc on est bloqué. Et ensuite, ils déveillent l'arbre, et après, ils nous disent qu'il y a un autre arbre qui est tombé sur les caténaires juste derrière, qu'il faut attendre 2h30 du matin qu'il y a un mécanicien qui arrive, puis on nous dit qu'en fait, ça va prendre plus de temps, et vers 4h30 du matin, ils nous disent qu'on repartira pas. Au début, les gens étaient tendus, puis après, quand il y a eu la 7e annonce, comme quoi il y avait un énième problème qui est arrivé sur la voie, en fait, on a juste éclaté de rire, ça avait l'air d'un running gag, ça a été assez morose.
Propos recueillis par Antonin Kermen. Alors, la circulation des trains restera très difficile dans tout ce réseau Rhône-Alpes dans les heures, voire les jours à venir. On fait le point avec Carmelo Di Marco. Il est directeur de crise pour la SNCF sur cette région Rhône-Alpes-Auvergne.
À l'heure actuelle, donc, on a des points de blocage sur le tronçon de ligne Montmélian-Gière. En fait, c'est le tronçon de ligne qui se situe entre Grenoble et Chambéry, où là, suite aux fortes intempéries, vent et puis orage de hier soir, on a eu beaucoup de chutes d'arbres, des ruptures de caténaires, et là, nos équipes sont mobilisées depuis cette nuit pour pouvoir dégager ces lignes-là, mais elles progressent très très lentement, et on n'a pas, à l'heure où je vous parle, on n'a pas de précision sur une reprise des circulations. Nous avons une alerte Météo France, donc orange, ce soir de 17 à 22 heures sur les secteurs de la Maurienne, de la Haute-Savoie et Nord-Isère. Nous risquons d'avoir des perturbations donc ce soir, dues aux orages. Et donc nous avons pris la décision d'arrêter toutes les circulations de voyageurs entre 17 et 22 heures. Dans les secteurs de la Maurienne, la Haute-Savoie et Nord-Isère.
Un propos recueilli par Yann Gallic. Au-delà des Alpes, il y a des dégâts ici et là dans une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la menace orageuse, on entendait Elodie Calac tout à l'heure, demeure dans le centre et le sud. Cantal, Haute-Loire, Lozère, Ardèche et Gare sont en vigilance orange.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Quelle victoire dans la lutte contre le cancer dans les 20 dernières années. Quel combat encore à mener. Santé publique France dresse un vaste bilan aujourd'hui. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
On en parle avec vous dans le cadre de la chronique santé dans un instant. D'abord, pour résumer la situation, les mots du président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn.
On va gagner, et il faut absolument qu'on les gagne, notamment grâce à la Ligue, de magnifiques combats contre le cancer. Mais c'est difficile d'imaginer qu'on peut gagner définitivement la guerre. C'est-à-dire que un monde où il n'y aurait plus du tout de cancer est très difficile pour des raisons théoriques à imaginer.
Chaque année en France, 382 000 personnes sont atteintes d'un cancer. Chaque année, la maladie fait quelque 150 000 morts. Mais Véronique, le crabe a perdu des pinces. Arrêtons-nous d'abord sur les cancers les plus fréquents, les plus sévères.
Alors, toujours à peu près les mêmes trios de tête. Chez les hommes, on a surtout dans l'ordre des cancers de la prostate, du poumon et des cancers colorectaux. Chez la femme, surtout des cancers du sein, des cancers colorectaux et des cancers du poumon. C'est également de ces cancers-là qu'on meurt le plus. Même si la prostate, par exemple, se soigne de mieux en mieux, le cancer du sein aussi. Globalement, le nombre de cancers continue d'augmenter chaque année. C'est lié notamment au vieillissement de la population. Mais la mortalité diminue grâce à de meilleurs diagnostics et à des traitements évidemment plus efficaces.
Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Alors, cela dit, en fonction des sexes, le constat n'est pas tout à fait le même.
Non, si le cancer concerne encore majoritairement les hommes, 54% des cas, les femmes sont hélas en train de les rattraper. Elles ont eu longtemps des comportements plus sains que les hommes. Moins d'alcool, moins de tabac, mais tout ça c'est du passé. Depuis quelques décennies, les femmes fument beaucoup plus et on peut dire aujourd'hui que la génération des 50-65 ans en paye cruellement les frais, avec dans cette tranche d'âge des cancers du poumon de plus en plus fréquents. Gauthier Desfossés est épidémiologiste.
On a une augmentation de l'incidence de plus de 5,3% par an et de plus 3,5% par an pour la mortalité. On est sur des femmes qui ont été très exposées à partir des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Et si on peut espérer que l'exposition au tabac diminue sur les années récentes, il faudra attendre encore plusieurs années pour espérer avoir des effets positifs sur la diminution de l'incidence et de la mortalité, on peut l'espérer pour ce cancer-là.
Allons encore plus dans le détail, pardon Véronique Julia. Au sein même de certains cancers, il y a des types qui diminuent et d'autres qui augmentent.
Oui, en fait, vous savez qu'il n'y a pas un, mais des cancers du poumon, par exemple. On parle de cancers à petites cellules ou encore d'adénocarcinome. Eh bien, apparemment, depuis 30 ans, les types de cancers du poumon les plus fréquents ont évolué. Les cancers seraient aujourd'hui plus profonds et ce serait lié tout simplement à l'évolution de notre façon de fumer.
On a une augmentation d'un type de tumeurs particuliers qui sont les adénocarcinomes, qui sont des cancers qui se développent plus profondément au sein du poumon et qui seraient en lien en première intention avec l'introduction des filtres de cigarettes dans les années 60, qui seraient justement responsables d'une inhalation plus profonde de particules cancérogènes contenues dans la fumée du tabac et qui entraîneraient préférentiellement des adénocarcinomes.
Alors continuons avec ce vaste bilan dressé par Santé publique France, Véronique Julia, les causes. 40% des cancers pourraient être évités.
Oui, en gros, 20% des cancers sont liés au tabac, 8% à l'alcool, 5% au surpoids et à l'obésité, 3% au soleil et 2% au papillomavirus. Ça veut dire qu'une bonne prévention peut permettre d'éviter beaucoup de cas, ne pas trop boire, s'exposer au soleil avec modération, surveiller son alimentation. Je précise que chez la femme, 15% des cas de cancer du sein seraient liés à la consommation d'alcool.
Et pour finir, une exception française.
Oui, c'est un phénomène qu'on ne s'explique pas vraiment. En France, le cancer du pancréas augmente chez l'homme comme chez la femme de 3 à 4% par an. C'est un cancer, vous le savez, très grave, au pronostic souvent sombre. Et ce qui est étrange, c'est que cette augmentation n'est observée dans aucun pays comparable à la France. Il faut donc chercher d'où ça peut venir. Le tabac n'est sans doute pas seul en cause. Un autre mystère, c'est l'augmentation des 4 cancers du sein très agressifs chez les très jeunes femmes. Là encore, les causes restent à identifier.
La chronique santé chaque mardi dans ce journal de 13h, elle est à réécouter évidemment sur franceinter.fr. 13 personnes interpellée et placée en garde à vue ce matin dans la région parisienne et les Bouches-du-Rhône, enquête sur les fuites aux épreuves du baccalauréat. David Di Giacomo.
Ils sont soupçonnés d'avoir obtenu le sujet de maths la veille de l'épreuve via la messagerie cryptée WhatsApp. Ces 13 candidats sont en filière L et ES. Les sections scientifiques ne sont pas concernées. 9 lycéens ont été arrêtés à Paris et dans les Hauts-de-Seine, 4 à Marseille. 6 d'entre eux sont encore mineurs. Tous placés en garde à vue, ils sont maintenant entendus par la police judiciaire. Les enquêteurs cherchent à savoir comment le sujet a fuité et comment il a ensuite circulé sur les messageries des lycéens. Le ministère de l'Éducation nationale avait décidé de ne pas refaire passer les épreuves, assurant que la fuite ne touchait que 3 à 4 établissements en Île-de-France. Mais les interpellations ce matin à Marseille interrogent sur l'ampleur exacte de cette fraude.
La capitale mondiale du football féminin est en France et c'est Lyon. Les demi-finales et la finale dans la ville. La première demi ce soir à 21h, États-Unis, Angleterre, état des forces en présence avec la consultante de France Inter, Nadia Ben Mokhtar. D'abord les Américaines.
Une équipe qui met énormément d'intensité athlétique, qui met beaucoup de rythme, une puissance offensive. En revanche, on a vu contre l'équipe de France qu'elle pouvait être bousculée, que ce soit même dans les duels ou dans le jeu. Et à côté de ça, on a une équipe d'Angleterre qui a, elle, fait une très très bonne impression depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est peut-être l'équipe qui a produit le jeu le plus complet, le plus beau. Il y a énormément de vitesse. C'est assez impressionnant de voir la rapidité des contre-attaques, la justesse technique, l'apport de certaines joueuses comme Lucy Bronze qui tiennent vraiment leur rang de leader. Donc pour l'instant, l'équipe d'Angleterre qui a mis 3 buts à la Norvège a vraiment fait très forte impression dans cette Coupe du Monde et on s'attend à un duel de très très haut niveau entre ces deux nations.
Demain, la deuxième demi-finale entre les Pays-Bas et la Suède. Vous trouvez peut-être que le mouvement MeToo, lancé à l'origine pour défendre les droits des femmes dans le monde du cinéma, que ce mouvement n'a finalement pas eu beaucoup d'effets très concrets. Eh bien, en voici un. En 2016, l'Académie des Oscars, 6000 personnes en tout, comptait 25% de femmes seulement. Elle en comptera bientôt 32%. Une nouvelle promotion d'artistes est invitée à rejoindre l'Académie. 842 nouveaux membres, la moitié sont des femmes. Bonjour Corinne Pélissier.
Bonjour.
Et beaucoup de Françaises.
C'est d'ailleurs la première fois que la France est si bien représentée. Parmi ces nouvelles venues, Mélanie Laurent, Agnès Jaoui, Camille Cotin, Colline Serrault, Mai Wen, qui auront toutes désormais leur mot à dire sur les films sélectionnés pour la prochaine cérémonie des Oscars. Josiane Balasko, très surprise de figurer sur cette liste, s'amusait ce matin par exemple de futures réunions aux côtés du gratin d'Hollywood, à commencer par Lady Gaga, qui fait elle aussi cette année son entrée à l'Académie.
Alors le problème, c'est qu'est-ce que je vais mettre comme robe? Mais c'est plutôt flatteur. J'ai appris ce matin, en ouvrant mon internet sur la première page du Monde et tout ça, je trouve ça très bien qu'il y ait une diversité même dans les Oscars. Je crois que le cinéma américain est quand même très représenté par les hommes, au niveau des rôles, au niveau de l'âge, c'est bien.
Après le scandale il y a 2 ans autour du hashtag OscarSoWhite et le manque de diversité, l'Académie jusqu'ici composée à majorité d'hommes blonds de 63 ans continue sa mue et espère atteindre la parité totale dès l'an prochain.
Merci Corinne Pélissier, on retiendra le rire de Josiane Balasko. Et cette dernière minute, cette information que donnent nos confrères de Reuters, ça demande évidemment confirmation. Les négociations pour les principaux postes en Europe, Emmanuel Macron propose à Angela Merkel de nommer la ministre de la Défense allemande Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne et Christine Lagarde pourrait prendre la présidence de la Banque centrale européenne. Source Reuters, cela demande évidemment confirmation.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Élodie Calac.
On surveille les orages sur le massif central jusqu'à la basse vallée du Rhône, des orages parfois forts sur les départements en vigilance orange avec de la grêle et des rafales de vent. Sur les autres régions au sud de la Loire, jusqu'au Jura et aux Alpes, le temps est lourd avec là aussi un risque d'averses et d'orages. Sur les régions plus au nord, c'est plus calme, largement ensoleillé. On trouve aussi du soleil sur les plages de la Méditerranée. Les températures restent élevées pour la saison, 20 à 24 degrés près de la Manche, 24 à 31 ailleurs, jusqu'à 31 à 37 degrés sur le sud-est, les 37 à Nîmes. Il fera un peu plus chaud demain, le soleil sera au rendez-vous. Il faudra quand même composer avec les nuages bas le matin sur le sud-ouest et des orages l'après-midi sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes.